c'est qu'avant chaque séance, on fait l'appel. On fait l'appel. Là, ici, l'appel, il est juste là pour faire un état des présents et des absents. Puis, il y a un autre type d'appel. L'appel du 18 juin. Général de Gaulle. Est-ce que là, il fait l'état des présents et des absents ? Non. C'est un appel à la mobilisation. D'accord ? Le général de Gaulle appelle à se mobiliser contre les troupes ennemies. Et je trouve que c'est plutôt une belle illustration, parce que quand Dieu nous appelle, est-ce qu'il fait un état des lieux, un état des lieux des présents et des absents ? Non. Clairement, non. Il nous demande de nous mobiliser. Alors, est-ce que nous avons tous un appel ? Oui. Et on va voir un petit peu qui, quoi, comment, pourquoi, comment ça se passe. Et je vous partagerai un petit peu un témoignage de ce que nous sommes en train de vivre en ce moment avec notre famille. Nous avons tous un appel, nous avons ici, hop là, 2 Timothée 9, où il est clairement dit, oui, il nous a sauvés et nous a adressé un saint appel. Et c'est une bonne nouvelle, puisque c'est pour tout le monde. Vous allez voir que comme les profs, Dieu fait de la pédagogie différenciée, c'est-à-dire qu'il va s'adapter à chacun d'entre nous. Alors commençons par regarder un petit peu, dans la Bible, quels sont les personnages, alors il y en aurait bien plus que cela, je ne les ai pas tous énumérés, mais qui ont répondu à un appel. Abraham, d'accord, en Genèse 12, versets 1 à 2, l'Éternel a dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom et tu seras une source de bénédiction. » Et là, quand même, Abraham, il a sacrément du bol parce que Dieu s'adresse directement à lui. D'accord ? En direct. Et il lui demande, clairement, de se déplacer, de partir en mission sur une terre. Deuxième exemple, Paul et Barnabas. En acte 13, il est écrit, « Pendant qu'ils rendaient un culte au Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour la tâche à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné, prié et posé les mains sur eux, ils les laissèrent partir. » Ici, c'est le Saint-Esprit qui vient les interpeller, qui vient les appeler, très probablement au travers des dons, d'accord, prophétiques. Troisième exemple, Jérémie. En Jérémie 1, versets 3 à 5. Merci. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu naisses, je t'avais consacré. Je t'avais désigné prophète pour les nations. Là aussi, Dieu s'adresse directement à lui. Un quatrième et dernier exemple, Moïse. En Exode 3, au verset 2, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda et vit que le buisson était tout en feu, sans être consumé. Donc là, c'est au travers, effectivement, d'une flamme. Dieu lui parle. Il entend audiblement la voix de Dieu. Alors regardons un petit peu dans la Bible, ok, mais aujourd'hui, parmi nos contemporains, et de manière très locale, je crois qu'on le voit, la famille B a été envoyée, a répondu à un appel. Ils nous l'ont dit, ça faisait 18 ans qu'ils attendaient. 18 ans. Dieu les a préparés pendant 18 ans. Un de nos responsables apostoliques, Georges et sa femme Jilty, quand ils ont quitté l'Angleterre pour venir ici, ils ont clairement répondu à un appel. On peut dire Nadine, au sein de notre assemblée, par rapport à l'évangélisation, Dieu lui a posé Alpha dans le cœur et ça fait des années qu'elle œuvre. Samuel Olivier, qu'on connaît pour la louange, d'accord ? On a encore Sandra et Timothée de Vogel, le frère de Pierre et de Thomas, pour Quartier Libre, pour cette évangélisation auprès des jeunes notamment. Chris Taylor, qui était venu et qui avait animé un festival où il a reçu cet appel pour aller implanter des églises dans différents endroits. Je pense qu'on pourrait aussi encore évoquer Caroline et Graham, qui nous ont rejoints pense qu'ils ont répondu à un véritable appel. Pierre et Farid, pour l'ancienat, entre autres. Donc on voit que ça n'est pas que dans les Écritures, ça n'est pas que dans l'Ancien Testament. Dieu appelle encore aujourd'hui. Alors comment savoir ? Qu'est-ce qui se passe ? Quels sont les indicateurs ? En général, Dieu vient déposer quelque chose dans ton cœur, soit de manière forte d'un coup, soit c'est une graine qui germe avec le temps. Et au fil du temps, ou de manière très forte, tu as un intérêt très particulier pour quelque chose. Tu es touché, tu es sensible. Tu peux aussi avoir des indicateurs au travers des songes, des paroles prophétiques qu'on te donne, des visions, des images que tu reçois. Tu peux être aussi particulièrement touché par des passages de la Bible. Tu les as peut-être lus 10 fois, mais là, ce coup-ci, tu as une révélation. Tu ne vois plus les choses de la même manière. Tu ne les perçois plus, tu ne les ressens plus pareil, et Dieu te parle. Et puis aussi, comme on a pu le voir, certains peuvent voir Jésus, peuvent entendre audiblement la voix de Dieu. Donc au final, ta vie va changer. Pas dans la dimension pratique, il y a quelque chose au fond de toi qui te sort de ton quotidien, qui fait que tu n'es plus à l'aise, qu'il y a quelque chose qui t'appelle, ça vient en général de là, du plus profond de tes entrailles et de ton cœur. Alors Dieu nous appelle tous, oui, mais Dieu nous appelle différemment. Et c'est ça qui est chouette, parce que nous ne sommes pas des milliards de Sylvains, nous ne sommes pas des milliards de Marie, nous sommes tous un et uniques aux yeux de Dieu. Alors déjà, il peut nous appeler au travers des différents ministères. D'accord ? Il y a le ministère apostolique, le ministère prophétique, pastoral, évangélique ou encore l'enseignement. Il peut nous appeler à œuvrer dans l'église locale ou alors sur une autre terre, aller plus loin, partir sur une autre terre et qu'il va nous montrer et tout laisser. Il peut nous appeler sur des missions ponctuelles ou pour toute une vie. Il peut nous appeler seul ou en famille ou en couple. Et c'est ça qui est chouette. Ne soyez pas inquiets en voyant les gens répondre à un appel en disant « mais moi, j'en serais pas capable ». Ça tombe bien parce que ce n'est pas ce que Dieu te demande. Dieu a un appel spécifique pour toi, avec les dons qu'il t'a donnés, avec le cœur que tu as et avec l'amour qu'il te porte. Alors, que se passe-t-il quand Dieu t'appelle ? Petite illustration, Lily, s'il vous plaît. Dieu, le Père, t'appelle. 3 possibilités. La première, le Père appelle. Qu'est-ce qui se passe ? Rien, tu es à moitié silencieux. Tu es bien trop préoccupé par tes activités. D'accord ? Tu n'entends pas. Tu es dans ton truc. Rien. Deuxième possibilité. Le Père t'appelle. Que se passe-t-il ? Oh là là, tu vois l'appel, et là tu te dis, mon Dieu, qu'est-ce qu'il va encore me demander celui-là ? Troisième et dernière possibilité. Oui, coucou mon enfant. Dis-moi, est-ce que tu peux venir me voir s'il te plaît, j'ai quelque chose à te dire. Troisième possibilité, tu es prêt. Tu entends l'appel et tu décroches. Merci Lily. Alors ça a été annoncé il y a quelques semaines déjà, avec Maëlle et les enfants, nous nous sentons appelés. Appelés à quitter notre église pour partir sur la région de Chamonix. Alors, Je fais une petite parenthèse. Pour moi, ce message a été très compliqué à faire. C'est la première fois que je mets autant de temps. Ça fait des années que je n'ai pas pleuré. Et c'était même un sujet de prière que Dieu déverrouille. Ça fait 2 jours que dès que je me plonge dans ce message, je m'effondre. Je ne sais pas comment je vais aller jusqu'au bout. Mais Farid m'a dit ce matin, on est en famille. Alors nous allons porter ça en famille. Ça fait des années, je dirais entre 4 et 5, que Dieu prépare nos cœurs et on le ressentait au fond de nous avec Maëlle. On sentait qu'on était en train de prendre un virage. C'était pas forcément palpable, mais on voyait que Dieu nous ouvrait dans sa sensibilité au Saint-Esprit, dans les enseignements, dans nos responsabilités. Et si je dois être honnête, ça faisait bien longtemps que Maëlle était prête. Et j'ai compris bien tardivement, ou pas d'ailleurs, en son temps, qu'elle m'attendait. Un petit bref et synthétique historique de ma vie pour comprendre un petit peu les choses. Je suis issu d'une famille où mes deux parents étaient hommes et femmes de ménage, où mon papa nous a laissés, on a vécu le manque, on a vécu le frigo vide, on a été maltraités. Et pour moi, c'était un petit peu une revanche sur la vie que de montrer finalement que j'étais capable. Alors j'ai rien dit, j'ai encaissé des coups et puis sans rien dire, j'ai fait mes études. J'étais le seul dans la famille et j'ai vécu ça de manière assez isolée. Et petit à petit, les études, premier travail, je deviens enseignant, puis rapidement chef d'établissement et puis... petit établissement, puis de plus gros, puis formateur, puis une micro-société en parallèle, et puis formateur pour appel en même temps que les boulots, ainsi de suite. Et petit à petit, je fais ma place. Je fais ma place, et au final, je recherche quoi ? Je recherche déjà peut-être à me prouver que je suis quelqu'un, que j'ai de la valeur. Je cherche aussi à mettre ma famille en sécurité. C'est important pour moi. On est parti de rien, mais c'est important que mes enfants aient quelque chose. C'est important que mes enfants ne vivent pas le manque, qu'ils aient des habits à leur taille. Parce que quand on arrive au collège, qu'on est en quatrième et qu'il vous manque ça, votre pantalon en bas, parce que vous avez récupéré le pantalon de votre frère, les ados, ils ne sont pas très cool quand même. Et tout ça, je ne voulais surtout pas que les enfants le vivent. Et donc j'ai construit cette boîte dans laquelle je me suis posé. Et dans tout cet espace, dans tout ce volume, je gérais. J'étais sécurisé. Pour arriver à... cette situation où nous avons quatre merveilleux enfants, une super belle maison, Maëlle est à 500 mètres de son boulot, elle est super épanouie dans son équipe. Moi, je travaille à 10 minutes de chez moi, dans le plus gros établissement de l'académie. Je gagne très bien ma vie, j'ai la reconnaissance sociale, j'ai la reconnaissance du travail. Je suis implanté dans mon église, j'aime profondément mon église. Et tout va bien. Les enfants sont heureux. Maëlle est heureuse. Nous sommes heureux. Nous sommes un couple épanoui et heureux. Avec notre famille et pas très loin aussi. C'est génial. On en reste là. Merci. Eh bien non. Dieu est venu nous travailler. Dieu est venu nous travailler au travers de différentes situations. Et une particulièrement. Vous l'aurez compris, c'est la dimension matérielle. La dimension matérielle qui pour moi était importante, pour pas que les enfants vivent le manque. Et nous sommes embarqués, peut-être de manière un peu inconsciente, il y a quelques années à la sortie de la Covid, dans une grosse rénovation, une très grosse rénovation. Et en fait, à l'origine, on voulait juste une maison un petit peu plus grande, pour accueillir notre quatrième enfant, notre petite Lucille. Et puis cette grosse rénovation, il y a eu plein d'imprévus. L'après-Covid, l'Ukraine, et on est arrivé à une situation où il manquait des fonds. Il manquait clairement des fonds pour finir. Dans le projet que nous avions, il y avait notre maison et 4 appartements. 4 appartements où Dieu nous avait dit dès le départ, il y a une vision pastorale. Ok, et on l'avait vraiment accueilli comme ça avec Maëlle. Et puis petit à petit, Dieu m'a repris Parce que quand on a été au pied du mur, je me suis aperçu que je ne parlais plus d'une vision pastorale. Je parlais d'héritage. 4 enfants, 4 appartements, c'est super. Qu'est-ce que je laisse à mes enfants ? Et j'étais dans une situation où j'étais profondément ébranlé. C'était le fruit de 15 années de travail. Nous avions fait pour construire une première maison, nous avions fait beaucoup, une deuxième maison que nous avions rénovée. Et là, c'était le fruit de tout ça. Et là, j'ai vu quelques hommes de l'église et je leur ai dit, j'ai besoin de prière, dites-moi, j'en suis où ? Est-ce que c'est de l'entêtement ou est-ce que c'est de la persévérance ? Je ne sais plus. Je ne sais plus où j'en suis. Et là, les frères ont prié. Et pas un m'a dit, c'est de l'entêtement. Et David m'a dit, tu sais Sylvain, je crois vraiment que c'est à genoux que tu vas gagner le combat. Et là, j'étais interpellé parce que je ne priais jamais à genoux. Et d'ailleurs, ça faisait mal au début parce que je n'avais pas l'habitude. Et j'ai écouté, j'ai obéi, je me suis soumis. Et je me revois me mettre au pied de mon lit, me mettre à genoux. Et là, il se passe quelque chose. Là, il se passe quelque chose parce que je remets tout à Dieu. Et avec Maël, on se dit, pardon. Pardon, Père, parce qu'en fait, ça t'appartient. Tu en fais ce que tu en veux. Ce que nous avons, ce n'est pas à nous, c'est à toi. Donc si tu veux qu'on vende, on va vendre. Alors, on a mis la maison en vente. Pour la petite anecdote, c'est un ancien élève qui vient pour visiter la maison. Ça fait drôle quand même. Ça fait drôle. Et on leur dit, on se donne jusqu'à Noël. On se donne jusqu'à Noël et on a dit à Dieu, soit on a le financement pour terminer le projet à Noël, soit ok, on se soumet et on accepte la vente. Le 25 passe, 26 au matin, on avait Marie-Thérèse qui venait prendre le goûter avec nous, on a dit, ben, j'appellerai après. Et pendant que notre sœur est à la maison, le téléphone sonne. La banquière, qui était en congé, mais qui avait consulté ses mails parce qu'elle avait beaucoup travaillé sur ce projet et elle nous avait à cœur. Sylvain, le financement est accordé. Mais quelle leçon, les amis. Quand on rend à Dieu ce qui est à Dieu, quand on se soumet et qu'on se met à genoux. Et ce n'est que maintenant que je suis capable d'expliquer que c'était un enseignement. Ce n'est que maintenant que je suis capable de dire que Dieu m'a détaché de cette dimension matérielle à laquelle j'étais bien trop attaché. Je ne dis pas qu'il n'y a pas encore du chemin à faire, mais il n'empêche. Et ça, ça a été un enseignement super fort. Et Dieu préparait ce qui allait se passer. Parce qu'en décembre dernier, alors décembre, pas 2023, décembre 2022, d'accord ? On n'avait pas du tout reçu de vision, je ne ressentais pas un appel clair et précis. Et mais Dieu m'enseignait déjà, Dieu préparait déjà les choses. Et pour en revenir un petit peu à l'église, ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans que je suis dans cette église, cette année. 20 ans. J'ai eu beaucoup de mal à trouver ma place. Et pourtant, ça fait quelques années que je m'y sens bien, que je sens qu'avec Maëlle, on a nos racines de plus en plus fortes, que je me sens grandir dans quelque chose qui est juste et que je ne me sens pas imposteur. Il y a eu la diaconale, puis David qui m'appelle, David B. qui me dit « Tu sais Sylvain, ça serait bien que tu te lèves et que tu t'occupes des gars. » Et là, je regarde, ma première réaction, je regarde David, je lui fais « Tu plaisantes ou quoi ?» Avec le passé que j'ai avec mon père, et les souffrances que j'ai avec les hommes, tu veux absolument que je m'occupe des gars ? Tu délires. Il me dit, non, justement Sylvain. Justement. Et il avait raison. Il y a eu les groupes de croissance, les jeunes adultes, l'appel à devenir diacre. Et puis là, j'étais sur cette transition. J'avais rejoint l'équipe d'anciens et on voyait comment Dieu allait potentiellement m'amener jusque-là. Et puis je reçois un appel. Le téléphone sonne. Et là, je n'étais plus en mode silencieux. J'ose décrocher. Je dirais même, nous osons décrocher. parce que c'est fondamental. C'est avec Maël que nous avons décroché ensemble le téléphone. Nous sommes allés rejoindre, enfin passer le week-end, c'est le week-end fin octobre, début novembre, nous partons à Chamonix, parce que mon ami d'enfance, Alexandre, et son épouse, se sont installés à Chamonix depuis quelques mois. On se retrouve là-bas, et on vient prendre un temps de prière. C'était un petit peu programmé, il y a un temps spécifique où on a dit ce soir on priera pour Sylvain parce qu'il y avait quelques enjeux du passé, il y avait des choses comme ça. Et le frère d'Alexandre n'était pas avec nous, mais il savait qu'on priait et il avait dit je prierai, je serai connecté avec vous dans l'esprit et je serai là. Et là, on se met à prier. Je vis un moment hors du temps. Je suis incapable de vous dire combien de temps ça a duré. Et Dieu est venu. Dieu est venu appuyer à des endroits que je pensais être complètement guéri. Alors, je ne pourrais pas vous raconter tout, mais il y a deux éléments forts et fondamentaux. Le premier, c'est sur la dimension de l'identité. Marc, le frère d'Alexandre, nous appelle. Il me dit, Sylvain, je vais te dire les choses cash. J'ai arrêté de modifier ce que je reçois du Saint-Esprit parce que je ne veux pas galvauder. Des fois, ça paraît dur, mais je dis les mots tels quels. Je dis, ben vas-y. Et là, il me dit, petit gros. C'était des mots qui ont détruit mon enfance. Petit et grassouillé. Mon père et mon frère avaient un malin plaisir appelé Slim Fast pour les plus âgés. C'était quoi Slim Fast ? C'était des boissons de substitution pour maigrir. J'étais incapable d'aller à la piscine quand j'étais gamin. Incapable. Et ça, je croyais que c'était passé. Non. Petit gros. Waouh. C'est pas une baffe, c'est un uppercut que tu prends dans la tête. Ce qui est important, c'est la suite. Et là, il me dit, Sylvain, Dieu a un message à te dire. Il n'y a jamais eu rien de gros chez toi, si ce n'est ton cœur. Pouf. Il n'y a jamais rien eu de gros chez toi, si ce n'est ton cœur. Et là, il y a des ampoules qui commencent à s'éclairer. Où je me dis qu'en effet, je crois que Dieu a mis quelque chose de particulier dans mon cœur. Et c'était évident pour moi d'aimer les enfants. C'était évident pour moi d'aimer les femmes. D'ouvrir mon cœur aux hommes, c'était impossible. Je n'avais eu que du mal. Et là, il est venu entériner. Et finalement, c'est comme si, en arrivant ici, il y a des personnes dans l'église qui m'ont reconnecté. Mais c'est comme s'ils avaient juste mis la pointe, vous savez, sur la planche, et qu'ils avaient juste commencé un peu à taper. Et là, le Saint-Esprit est venu, il a fait « Pouf !» Ok. J'ai compris. La deuxième chose fondamentale, j'ai vécu un moment entre les bras du Père. C'est difficilement explicable. Ça fait des années, depuis mes 22 ans, que je souffre de douleurs articulaires plus ou moins fortes. Où je suis tout le temps rempli de pensées. Si j'ai le malheur de me réveiller dans la nuit, le cerveau se met en route et c'est terminé. Et je ne sais pas combien de fois j'ai prié Dieu pour me dire, s'il te plaît, mets mon cerveau en pause. Mets mon cerveau en pause. Et là, je vis un moment hors du temps, sans aucune douleur, sans aucune pensée, si ce n'est cette sensation de bien-être, d'être dans les bras du Père. Ces deux éléments fondamentaux font que, quand ce temps se termine, je ne suis plus le même. Et en plus de ça, je me dis, mais ce que j'ai vécu, je veux que tout le monde le vive. Je ne peux pas garder ça pour moi. C'est tellement fort, c'est tellement bon. Maëlle était à côté de moi, et elle m'a dit, je t'ai vu respirer. Et je l'ai senti, je me suis senti respirer à plein poumon. Maëlle m'a dit, tu sais, je t'ai vu respirer comme quand nos enfants sont nés, comme la première fois où ils ont respiré. Et je crois que je peux réellement dire que j'ai vécu une renaissance. Et là, du coup, vous êtes branchés en Wi-Fi, en 5G, en tout ce que vous voulez, mais vous êtes supra-connecté avec Dieu, et vous décrochez. Là, vous décrochez. Alors, avec qui nous partons ? Je vous ai parlé d'Alexandre. Alexandre, il est donc au milieu, c'est mon ami d'enfance. On s'est connus en sixième. J'arrive en sixième, et ce n'était pas à n'importe quel moment de ma vie. J'ai été très engagé, en fait, dans l'Église catholique. J'étais enfant de cœur, je servais la messe. Première communion, deuxième communion. Et là, un scandale éclate. Mon frère est abusé par le prêtre. On nous enlève de l'Église, à juste titre. Et je vivais quelque chose, moi, déjà avec Dieu à ce moment-là. Mes parents nous envoyaient au cathé et à la messe parce que les grands-mères le demandaient. Ça se faisait souvent comme ça. Et Dieu a placé Alexandre. Ça a été la seule année scolaire que nous avons passée ensemble. Et pourtant, depuis, on ne s'est jamais quitté. C'est la première personne, je le revois encore, sortir de son cartable marron au mois de juin, un paquet cadeau en me disant « Tiens, tu ouvriras ça chez toi. » C'était une Bible. C'est une Bible que j'ai lue pendant des années, seule, le soir, dans mon lit. Il y a donc sa femme Laura et leur fille Lana, qui a 12 ans. C'est donc avec eux que nous partons. On a vécu pendant de 12 ans à 42 ans, vous voyez, ça fait 30 ans. Hein. On a vécu franchement de super moments, mais il se trouve que là, je crois que Dieu a véritablement fait quelque chose où nos chemins, spirituellement, se sont croisés de manière très forte. C'est donc eux. Ils devraient être là normalement, je l'espère en tout cas, le premier week-end de juin. Donc ça sera l'occasion aussi de vous les présenter. Donc, nous construisons ce projet et nous avons reçu cette vision commune avec Laura, Alexandre et Lana. Lana, pour la petite anecdote, pendant qu'on priait pour moi, particulièrement par rapport aux violences que j'avais reçues de la part de mon père, est venue prier en langue. Et à ce moment-là, il se passe quelque chose que je ne peux pas expliquer. Mais comme une chape de plomb qui tombe. Donc les enfants peuvent prier en langue. Les enfants ont eux aussi un véritable appel. Entendons-le. Est-ce que tu veux bien passer la slide d'après, s'il te plaît ? Alors, je vous ai parlé un petit peu de tout ça, finalement, un petit peu dans le désordre. Je veux bien que tu ailles à celle d'après, s'il te plaît. Voilà. Merci. Alors, des révélations que Dieu donne. Je vous en ai fait part. L'expérience d'un amour inconditionnel, des délivrances, d'accord, sur la peur du rejet, notamment, entre autres. Des guérisons physiques. Avec Maëlle, on s'est clairement dit, à un moment donné, on se trouve face à un puzzle, on a les mains dans les poches, et en fait, Dieu met en place le puzzle devant nous. C'est comme si tout ce que nous avions vécu, des épisodes de notre vie que nous avions vécu, que nous pensions un petit peu isolés, étaient mis bout à bout, et que du coup, ça prenait du sens et une dimension que nous n'avions pas connu jusqu'alors. Et là, je rentre de ce week-end où j'ai vécu tout ça. Je me retrouve assis face à mon bureau. Et je me dis, qu'est-ce que tu fais là ? Qu'est-ce que tu fais là ? Et pourtant, j'ai un job que j'aime, j'ai une équipe que j'aime, je suis bien où je suis. Et là, il y a quelque chose qui aime tirailler dans mon quotidien. Qu'est-ce que tu fais là ? Et je prends conscience, à ce moment-là, des boîtes que je me suis créées et dans lesquelles je me suis enfermé. Sauf que concrètement, je le vois, Dieu a mis des personnes sur ma route qui me demandent de l'aide, de l'accompagnement, de la prière. Ça a tellement de sens pour moi. Mais quand vous faites entre 12 et 14 heures par jour, vous trouvez où le temps ? Et là, je sens une distorsion, un écartèlement à l'intérieur. Et je me dis, tu dois faire un choix, Sylvain. Tu dois faire un choix. Et parce que Dieu m'a travaillé, parce que Dieu m'a rassuré, notamment sur la dimension matérielle, là, je suis prêt. Je me rapproche du rectorat pour demander une rupture conventionnelle. Rupture conventionnelle. Je regarde un petit peu sur Internet. L'an dernier, 283 demandes, à peu près. 283, pardon, acceptations sur presque 1200 demandes. J'ai dit, mais mon gars... Mais je rentre dans la procédure, j'envoie le recommandé, je suis rapidement reçu au rectorat dans les délais de un mois, Et là, je suis accueilli les bras ouverts. Alors, c'est vrai que j'étais très investi dans l'institution, donc on me connaissait. Alors, on m'a dit, bon, monsieur Chouzenou, vous connaissez, on s'imagine que le projet est structuré. C'est OK pour vous? Oui, c'est OK pour moi. Voilà. Et puis, on a parlé presque de tout et pas de n'importe quoi, mais voilà, normalement, cet entretien, il est fait pour s'assurer qu'il y a bien un projet qui est fondé derrière. Ça a duré 2-3 minutes. Pas plus. OK. J'entends. Et tout est parti comme ça, avec des évidences. Et c'est là où j'ai dit, Père, s'il te plaît, je ne veux vivre que des évidences de ta part. Dieu, les amis, est évident. C'est nous qui ne le sommes pas. Souvent, on se trouve des excuses. Mais Dieu est clairement évident. Et depuis, nous avons plein de confirmations. Tout n'est pas simple, on va en parler après. Tout n'est pas simple. Mais nous avons pas mal de confirmations. La dernière en date, c'est qu'on s'est dit, ce qu'on a, la bâtisse que l'on a, elle ne nous appartient pas, elle est à Dieu. On demande à Dieu. On ne sent pas du tout qu'il faut la vendre, pour plein de raisons. D'accord, que je ne vais pas étaler là. On s'est dit, il y a quand même une question de la rentabilité. Il faut au moins que ça assure les charges. Parce que Chamonix, c'est un petit peu comme les baies, c'est comme Genève. Hein. Déjà, pour trouver, il faut s'accrocher. Mais en plus, quand vous voyez le prix de l'achat ou du loyer, là, ça relève du miracle. Et je ne le dis pas en rigolant. Ça relève réellement du miracle. Et on s'est dit, ben, ce qu'on va faire, c'est que déjà, on va faire un premier pas de foi. On va finir les travaux. Quand vous connaissez le Sylvain que je suis, il faut que tout soit prévu, il faut que le budget soit là. D'accord ? On a attaqué les travaux. Je me suis soumis à la volonté de Dieu. Je me suis soumis à ce que Laura, Alexandre et Maëlle recevaient. J'ai fait un premier pas. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire. On a attaqué les travaux, on n'a pas les fonds pour terminer. Mais on est convaincu que Dieu va pourvoir. On en est sûr et certain. Je n'ai pas menti à personne. Le maçon est au courant, il sait. Il m'a dit, tu me payeras quand il faudra. Voilà. Alors, entrer dans le plan de Dieu, est-ce que c'est simple? J'aimerais vous dire oui. En fait, il y a différentes phases. Il y a la phase où tu reçois la vision que Dieu t'apporte, cet appel, qui résonne tellement juste en toi. C'est un petit peu comme quand tu amourais la première fois. Tu sais, tu es tout euphorique, tu as envie de crier sur tous les toits, il y a tout ça. Puis après, il y a une deuxième phase. On passe dans le pragmatique, le concret. D'accord? Il y a les enfants. Deux ados. Pas simple. Il y a l'acceptation de te dire, OK, tu es en train de renoncer au concours qui pour toi était l'ouverture sur ta vie, sur une nouvelle vie. Tu es en train de renoncer à ta vie parfaite. Alors, est-ce que c'est évident? Oui. Quand Dieu t'appelle, c'est évident. Est-ce qu'on voit Dieu à l'œuvre? Oui. Vous voyez, pour en revenir à la maison, on s'est dit, on va faire de la location saisonnière, ça permettra d'assurer. J'ai rencontré il y a 15 jours la personne qui est censée me relayer à l'école, sur le poste chez l'établissement. Cette personne, ils ont, et elle et lui, une maison, une dans les Alpilles, une en Lozère. Ils veulent juste un pied-à-terre. J'attends confirmation, mais ils me demandent de louer en dehors des week-ends et des vacances scolaires. Qui aujourd'hui cherche une location en dehors des week-ends des vacances scolaires? Ça veut dire que potentiellement, ça pourrait prendre en charge une petite partie de notre loyer là-haut. Une maison pour notre famille, il faut savoir qu'on en avait trouvé une qui n'était pas très chère, on était à 3000 euros par mois. Voilà. Alors, est-ce que c'est douloureux? Est-ce que c'est inquiétant? Est-ce que c'est angoissant? Oui. Je suis très éprouvé ces deux derniers jours. Profondément éprouvé. Vous savez ce qui me secoue le plus? C'est de vous quitter. Hier, je disais, en rentrant de Chamonix, je disais, je ne comprends pas, en fait, j'ai mis combien de temps à trouver ma place dans l'Église. Combien de temps j'ai mis à me sentir utile, à avoir l'impression de répondre à ce à quoi tu m'appelais. Et là, alors que j'y suis, tu m'enlèves. Et Dieu m'a donné une image. Il m'a dit, ça fait 20 ans que tu es dans le sein de ta mère. Elle va coucher. Et si vous savez tout ce qui se passe par la tête, parce qu'on reste humain, et même si au fond, il y a une conviction qui est là, même si on sait que Dieu sera souverain, mais et si tu te plantes, et si tu n'as pas de quoi donner à manger à ta famille, et si tu n'as pas de toi, Maëlle a fait sa demande de mutation. Si elle obtient sa mutation, elle n'a pas le droit de la refuser. Et si on n'a pas de logement, on fait quoi? Elle là-bas, nous ici? Alors des questions, il y en a. Oui. Des angoisses, il y en a. Oui. Des peurs, il y en a. Oui. C'est pas simple. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans cette phase-là. De peur, d'angoisse, de questions. Même si on sait que c'est juste. Maëlle, c'était il y a 3 semaines. Moi, c'est maintenant. Je pleurais dans les bras de Farid ce matin. Et notre force, c'est bien sûr Dieu, c'est l'amour qu'il a déposé dans nos cœurs, mais ça va être aussi vous. Parce que on ne part pas. Je crois vraiment que Dieu nous envoie. Et nous restons une famille. Nous restons frères et sœurs en Christ, bien au-delà de ces murs, de ce lieu-là. Et répondre à un appel, c'est aussi mobiliser la communauté. Et on ne répond pas à un appel tout seul. Si on en est là aujourd'hui, c'est parce que vous avez été là, parce que vous nous avez accompagnés, parce que vous avez prié pour nous aussi. Vous avez contribué à l'œuvre de Dieu au travers de nous. Et on compte sur vous. Et pour vous dire quand même qu'on est dans cette conviction, on a rencontré là-haut des personnes qui s'occupent de l'Église protestante réformée. Ils sont très peu nombreux. Il y a 3 enseignants laïcs, 3 dames anglaises. Quand j'ai pris contact avec elles, le message, ça n'a pas été « bonjour, je m'appelle machin », ça a été « waouh, ça fait 23 ans qu'on prie pour ça ». Ça fait 23 ans qu'on prie pour ça. On a été dimanche au culte. Je vous mentirais si je disais qu'on s'y est bien senti. C'est pas vrai, mais je crois que c'était important. Et on y a été. Et jeudi, on a rencontré donc les 3 responsables. Donc il y avait la présidente du conseil paroissial et 2 autres personnes qui étaient là. Et on leur a expliqué un petit peu notre démarche et le projet. Et elles se regardaient comme ça. Et on sait pas, je ne savais pas trop ce que ça voulait dire. Est-ce qu'on était à côté de la plaque? Est-ce que ça semblait... Il y en a une à un moment donné qui me coupe et elle me dit, ce projet, ça fait plusieurs années que je prie et que je n'arrive pas à le mettre en place. Ce projet pour accueillir, pour accompagner les personnes. Alors parlons-en peut-être un petit peu de ce projet, si tu veux bien passer. L'idée, elle est là. On est sur une zone de désert spirituel. Les gens pensent qu'on achète tout avec l'argent. Clairement. Il y a énormément d'argent à Chamonix. Et il y a un fossé entre les locaux, pour beaucoup, qui gagnent peu, et les touristes, ça parle autant anglais, peut-être même plus anglais que français, espagnol, italien, arabe. Vous avez des chalets qui valent... Allez, le moins cher doit coûter 3 millions d'euros, ça peut monter jusqu'à 10 millions d'euros. Ils sont habités 2-3 semaines par an, c'est tout. Et en contrepartie, il y a une liste d'attente comme ça pour les logements sociaux. Et le moindre petit studio, pas forcément en bon état, c'est 800, 900, 1000 euros par mois. Un appartement de 35 mètres carrés, C'est 280 000 euros à l'achat, le prix d'une maison chez nous. Et ce fossé, il y a une chape de plomb, je reprends les termes de la dame qui était là, il y a une chape de plomb qui pèse et cette rupture, cet écart qui se creuse. Donc il y a besoin de Dieu. Et je pense que c'est important qu'on puisse aller implanter une communauté. Et en réalité, on s'est aperçu qu'il y a déjà une partie de la communauté qui est déjà là-haut. On croit que Dieu nous appelle à proposer un lieu d'accueil pour la guérison et la restauration intérieure. C'est pour nous permettre aux gens qui, à un moment donné, se sentent déconnectés, qui ne donnent plus de sens à leur vie, qui sont en désaccord, la possibilité de venir, de se poser et de se retrouver dans les bras du Père. Et d'identifier ce qu'on appelle l'ADN originel. Quand Dieu t'a créé, qu'est-ce qu'il a mis initialement dans ton cœur? Parce que la société attend de toi, parce que tes parents attendent de toi, parce que tu as envie de faire voir à la société, au plus profond de ton cœur, qu'est-ce que Dieu a déposé? Et puis, pour ma part, particulièrement, un accompagnement pour les jeunes. On est sur une population de jeunes où il y a effectivement de l'argent, mais les parents qui sont, les locaux en tout cas, ils travaillent beaucoup. Et ils sont très attachés aux valeurs travail, au sport, aux résultats. Et les jeunes sont souvent un petit peu seuls pour gérer et la pression de la compétition sportive et la pression des résultats scolaires. Et j'ai envie de les accompagner là-dedans. Et au besoin même, pour ce qu'ils désirent, de les connecter au Père qui les accompagnera bien mieux que moi. Alors, ça c'est notre vision. Mais je crois que Farid a une parole de sagesse ce matin et je l'en remercie. Il y a ce que l'on projette, ce que met Dieu dans notre cœur, ce que Dieu met dans notre cœur. Et puis, il y a ce qui va se passer réellement. D'accord ? Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, cet amour que Dieu a déposé dans nos cœurs, on ne peut pas le garder. Sinon, on va être sous pression, ça va exploser tôt ou tard. Et ça déborde. Et on veut vraiment le donner aux gens. Et que ce soit par ce biais-là ou par un autre biais, on s'attend à Dieu. Et on a besoin de vous. Maintenant, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des trois, c'est l'amour. On vous aime.